La notion d'analogie est le saint sacrifice de la messe. Dans les 24 thèses que Saint Pédis a approuvées, les 24 thèses thomistes, dont on a mentionné hier, il y a deux références à la notion d'analogie. Et vous allez voir, bon, on va l'expliquer ce matin. Et on va l'appliquer au sacrifice de notre Seigneur et au sacrifice de la messe. Et vous allez voir, il y a énormément d'applications pour cette notion d'analogie qui est fondamentale dans notre foi catholique. Je vous lis seulement cette thèse. Il y aurait besoin d'expliquer tous les mots, mais je veux seulement vous montrer que c'est une des clés de la philosophie, de la théologie scolastique dont on a parlé hier. La quatrième thèse dit ceci: l'être se dit de Dieu et des créatures, non pas d'une manière univoque, ni d'une manière purement équivoque, mais d'une manière analogique. D'une analogie à la fois d'attribution et de proportionnalité. Ça, c'est une thèse. On va en expliquer dans quelques instants les différentes parties. Et aussi à la 20e thèse où il parle de la connaissance, comment notre esprit fonctionne, comment notre intelligence travaille. Il dit à la fin de la thèse, c'est un peu compliqué, je vous lis seulement la dernière partie. Quant à la connaissance des choses spirituelles, nous y élevons par l'analogie. Parce que Saint Pédis a prouvé, cela nous donne une des clés pour la théologie. Comme je vous disais, ces notions, peut-être, qui semblent abstraites, sont travaillées par la philosophie et ensuite, la philosophie les donne comme des instruments, comme le menuisier a besoin d'une scie, d'un marteau pour faire son meuble. Mais ce n'est pas lui qui fait la scie, ce n'est pas lui qui fait le marteau, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Et ensuite, le menuisier prend les instruments pour faire son travail. Mais la philosophie a travaillé ces notions et ensuite elle les passe à la théologie qui ensuite les utilise pour la foi. Beaucoup d'erreurs aujourd'hui, et entre autres, des erreurs sur la messe, ce qu'est la messe, viennent d'une ignorance de ces principes très simples, très fondamentaux, devrais-je dire. Alors, je voudrais procéder vraiment de façon scolastique, comme on dit, classique, d'abord en définissant les termes, en définissant cette notion d'analogie, en montrant les différentes sortes d'analogies. Et ensuite, nous allons l'appliquer à la notion de sacrifice en soi. C'est quoi un sacrifice? Troisièmement, au sacrifice de notre Seigneur. La passion de notre Seigneur fut un véritable sacrifice. Et dernièrement, bien la messe qui continue la passion est donc aussi un sacrifice. Oui, c'est comme ça qu'on procède. D'abord, voyons tout d'abord cette notion d'analogie. Il est important, quand on étudie notre foi, quand on étudie un peu de théologie, de se rappeler qu'on n'est pas capable, avec nos intelligences créées, d'appréhender, de saisir complètement, de comprendre parfaitement ce qu'est Dieu, l'essence divine. Dieu et aussi les mystères surnaturels. Dieu n'est pas visible. Deum nemo vidit unquam, nous dit Saint Jean. Personne n'a jamais vu Dieu sur terre. Saint Thomas d'Aquin, au tout début de la Somme théologique, à la question 13, la première partie de la somme, la première partie, ce thème traite de Dieu. Et à la question 13, il parle des noms divins. Les mots qu'on utilise pour décrire Dieu, pour essayer de comprendre Dieu d'une façon humaine. Alors, il se pose deux questions, si je vais seulement vous regarder deux de ces des articles de la question 13. L'article 3, où il parle de la chose qui est signifiée, la res significata, quand on dit un mot, par exemple la bonté, bon, on signifie quelque chose, et du mode de signifier. Il y a un mode humain de signifier cela. Et alors quand on l'applique à Dieu, il faut se rappeler que nos notions viennent de notre expérience humaine. Et on applique à Dieu des notions humaines. Alors il y a quelque chose de réel, mais il y a aussi une manière humaine d'exprimer ça. Je vais l'expliquer dans un instant. Et à l'article 3, l'article 5, Saint-Thomas nous parle directement de l'analogie. Alors, voyons un peu, en résumé, l'article 3 de cette question 13 de la prima pars. Le titre de l'article est suivant. Y a-t-il des noms qui sont dits proprement de Dieu? Ou au contraire, tout lui est-il attribué de manière métaphorique? Les mots qu'on utilise pour parler de Dieu, pour expliquer les attributs divins, est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça décrit quelque chose ou bien est-ce que c'est propre à Dieu? Alors c'est là qu'il faut faire cette distinction. Saint Thomas répond, les noms qu'on attribue à Dieu signifient réellement des perfections en Dieu. Il y a quelque chose en Dieu qui correspond à ces noms, à ces mots qu'on utilise. Et même ces perfections existent en Dieu de manière imminente. Ça dépasse même notre conception de cette chose. Cependant, nous appréhendons ces choses selon le mode qu'elles ont dans les créatures. Moi, je vais écrire ça au tableau. Et le mode. Alors, Saint Thomas nous explique que parmi les noms qu'on applique à Dieu, il y en a beaucoup qui signifient quelque chose réellement, quelque chose qui existe réellement en Dieu, proprement, quant à la chose. Mais nous sommes arrivés, nous, à comprendre cette notion, par exemple, quand on dit Dieu est juste, cette notion de justice, nous, qu'est-ce que c'est la justice? Eh bien, on regarde autour de nous, on voit des hommes, des personnes qui sont justes. Alors, il y a une perfection chez certaines personnes. Et alors, on voit cette perfection, on s'en fait une notion. C'est quoi la justice? Et on décrit, voilà. Prendre à chacun ce qui lui est dû, voilà. Il y a la justice, il y a différentes sortes de justice. Alors, on a la notion de justice. Et on dit, ensuite on forme un jugement, ouais, Dieu est juste. Dieu est juste, Dieu a la perfection de justice. C'est vrai, ce n'est pas une métaphore. Il y a en Dieu réellement la perfection de justice. Mais comment la connais-je? Comment est-ce que c'est par vision? Non, on ne voit pas Dieu. On ne saisit pas les perfections divines. On saisit des perfections dans les créatures et on les applique à Dieu. Parce que en Dieu se trouve la perfection de toutes choses. Je connais la justice divine à partir de la justice humaine. Je connais la justice divine selon le mode qu'elle a dans les hommes. Et donc je la signifie, je l'exprime, selon le mode qu'elle a dans l'homme. Mais il y a quelque chose en Dieu qui correspond à ça. C'est quoi la justice divine? J'en sais rien. Mais je sais qu'il y a quelque chose en Dieu qui correspond à cette justice qu'on trouve dans les hommes, mais d'une façon absolument éminente, parfaite. Oui, alors la distinction, la chose signifiée, la notion de justice, la perfection de justice, Mais chez nous, on la connaît selon un mode humain. Le mode divin de la justice, on n'a aucune idée. Dieu est absolument parfait. Alors, c'est un mystère. Et là, on approche le mystère. Mais on en sait quelque chose, on sait que ça existe. C'est quoi? Je ne sais pas. Et les autres perfections, c'est pareil. La bonté divine, on voit qu'un tel est très bon, on lit la vie de Saint Jean Bosco. Ah, magnifique saint, très bien. La bonté divine, la bonté des saints, la bonté de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, la bonté de Saint-Curé d'Arc. Alors, ces gens-là ont des perfections, ils participent à des perfections qui se retrouvent éminemment en Dieu. Alors, c'est quoi la bonté divine? Eh bien, on en a un petit reflet chez les hommes, mais c'est tout. Ce qu'elle est en elle-même, on ne sait pas, on ne la voit pas. On ne la voit pas. La vérité divine, la miséricorde, c'est pareil. Ces perfections divines, on ne peut pas les appréhender directement. Il y a d'autres termes, il est vrai, qui sont métaphoriques. Quand on parle de la colère de Dieu, ça c'est dans l'Écriture. La colère de Dieu. Est-ce que Dieu se met en colère? Non, ça c'est métaphorique. C'est d'une façon humaine. Mais, alors, c'est le premier point que saint Thomas nous dit. Donc, il y a des noms qui se disent proprement de Dieu. C'est vrai, ces réalités-là, ces perfections-là existent en Dieu. Mais pas selon un mode humain. C'est là une distinction qui est fondamentale. Donc, notre manière de parler de Dieu sera analogique. Analogique. En Irlande, ils utilisent une expression, c'est un peu assez courante. It's the same, but it's different. C'est la même chose, mais c'est différent. C'est ça, quoi. Il y a quelque chose d'identique, mais pas tout à fait. C'est ça. Dans l'article 5, saint Thomas pose la question, il fait un pas en avant, c'est... Les questions de saint Thomas sont comme des chapitres, se sous-divisent en articles. Et il avance généralement un pas à la fois. Il avance une notion après l'autre, un peu comme dans les exercices de saint Ignace. Il y a un fondement et ensuite on bâtit là-dessus. Et bien saint Thomas fait pareil. Alors il se pose la question, est-ce que certains noms sont dits de Dieu et des créatures de manière univoque ou de manière équivoque? L'univocité signifie qu'une chose porte le même nom et que la réalité qu'on signifie est identique. Quand je dis que Pierre est homme et que Paul est homme, le mot homme a le même sens exact dans les deux. Dans Pierre est homme, Paul est homme, le mot homme ici est univoque. Ou que je dis que l'homme est un animal et que le chat est un animal. Le mot animal signifie la même chose, identiquement pareil, c'est univoquement pareil. Ça, c'est l'univocité. Équivocité, quelque chose sera équivoque lorsque le terme sera commun, le mot elle-même, mais la réalité signifie complètement différent. Par exemple, le mot bélier se dit du mâle de la brebis, ou de l'ancienne machine de guerre pour défoncer les portes des châteaux, ou bien aussi pour le signe du zodiaque, le bélier. Ouais, le mot bélier, ici, a plusieurs sens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le mot bélier, dans le mal de l'animal, la machine de guerre ou le signe du zodiaque, aura des sens équivoques. Si on utilise... quelqu'un est un bélier. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens le prenez-vous? Parce qu'il pourra y avoir de la confusion. Alors, saint Thomas se pose la question, quand on dit que Dieu est juste et que l'homme est juste, le mot juste, est-ce que ça veut dire la même chose d'une façon univoque? Ou est-ce que ça veut dire deux choses complètement différentes? Est-ce que c'est équivoque? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. tertium datur. Il y a une troisième possibilité, c'est l'analogie. Parce que vous voyez l'importance de la question, si les mots qu'on utilise sont équivoques, ça veut dire que on ne connaît absolument rien de Dieu. Quand on dit la justice divine, on n'a aucune idée de ce que ça signifie. C'est de la pure poésie. Tout le catéchisme, ça ne s'applique pas à Dieu, parce qu'en Dieu, c'est complètement différent. Complètement. Il n'y a aucun rapport. Si c'est univoque, ça veut dire qu'on arrive à saisir, à appréhender, à pénétrer l'essence divine. Ça, c'est impossible. Notamment, il dit, cela est impossible. La réponse, c'est l'analogie. C'est un peu pareil, c'est un peu différent, beaucoup différent. Je peux formuler le jugement, je peux dire la phrase, Dieu est juste. Et ça, c'est fondamental. L'analogie me permettra de formuler des jugements, et donc de mettre des jugements ensemble, ça fera des raisonnements. Et puis ensuite de faire avancer la théologie, c'est comme ça que la théologie marche. Mais ça ne me permettra pas de saisir l'essence divine, de voir Dieu. Et c'est là qu'on voit la grandeur, mais la misère aussi de la théologie. La grandeur parce qu'on arrive à connaître des choses sur Dieu qui sont précises, mais la misère, c'est qu'on n'arrive pas à les connaître selon leur mode divin. On arrive au seuil de Dieu, mais on ne peut pas entrer encore. Alors il y a deux sortes d'analogies. Oui, alors vous comprenez le mot analogie. Cela signifie que lorsque le terme est commun, on utilise le même mot, et la réalité signifiée, elle est ni entièrement la même, ni entièrement différente. Il y a quelque chose de commun. Il y a un rapport, il y a une ressemblance entre les différents êtres. Alors, il y a deux sortes d'analogies. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'analogie d'attribution. Quand je dis, par exemple, l'homme est saint, S-A-I-N, où la nourriture est saine, où le teint de son visage est saint, il y a une bonne couleur, il y a des couleurs dans sa face, très bien. Il est en santé, ça se voit dans sa face, il a une couleur saine, où l'air est saint dans cet endroit-là. Le mot saint, S-A-I-N, est utilisé, vous voyez, pour qualifier différentes choses, mais c'est tout en relation avec la santé de l'homme. Que la nourriture soit saine, que l'air soit sain, que la médecine ou le teint de son visage, toute l'utilisation du mot saint sera en relation, la nourriture est saine par rapport à nous qui la mangeons, ou l'air est sain par rapport à ceux qui la respirent. Où le teint de son visage est sain, c'est le signe de la santé. Vous voyez, alors c'est en relation avec un, ce qu'on appelle le princeps analogatus, le premier analogué. Et tout est en relation avec celui-là. Ça, c'est l'analogie d'attribution. Il y a aussi une autre espèce d'analogie qu'ils appellent de proportionnalité. C'est un peu comme on a vu tout à l'heure. On dit la justice est par rapport à Dieu ce que la justice est par rapport aux hommes. Il y a une proportion. La justice par rapport à Dieu, proportionnellement, il y a un rapport. C'est équivalent. Alors, c'est une autre sorte d'analogie. On va le voir sur la notion de sacrifice. C'est important de s'en rappeler. Ce qu'elle est, la justice, je ne sais pas trop, mais je sais qu'elle est par rapport à Dieu, et que la justice humaine est par rapport aux hommes. Ça, je sais. Ça, c'est ce qu'elle a entre les mains, il y a une différence.
c'est ça, par exemple, cette notion de cycle assez fondamentale pour comprendre la mer. On va voir dans un instant.
Ce qui se dit des noms divins doit se dire de tous les mystères surnaturels. Il faut bien se dire, quand on traite d'une réalité surnaturelle comme le sacrifice, que nous parlons d'une réalité surnaturelle. Si on oublie cette question d'analogie, on aura tendance à faire de l'anthropomorphisme. On va appliquer à Dieu non seulement des notions qu'on voit autour de nous, mais on va appliquer à Dieu selon un mode humain. Alors là, non. Et ça fera des hérésies. Des hérésies qui sont dites aujourd'hui sur la messe. Par exemple, je vous en donne une. Le cardinal Ratzinger, préfet de la Sacrée Congrégation de la Foi, dans son livre « Foi chrétienne hier et aujourd'hui », édité en 69 puis réédité en 85, voici ce qu'il dit. « Certains textes de dévotion semblent suggérer que la foi chrétienne en la croix se représente un Dieu dont la justice inexorable a réclamé un sacrifice humain, le sacrifice de son propre fils. Et l'on se détourne avec horreur d'une justice dont la sombre colère enlève toute crédibilité au message de l'amour. » Alors lui, il dit, cette notion de justice, que Dieu réclame un sacrifice, mais c'est horrible, on se détourne avec horreur. Dieu a besoin du sang de son fils, mais c'est une abomination. Vous voyez, il comprend la notion de sacrifice, la notion de justice, selon un mode humain, mais il applique ça selon univoquement en Dieu. Alors là, il détruit le sacrifice de la messe. Et le sacrifice, non seulement le sacrifice de la messe, mais que la passion de notre Seigneur soit un sacrifice. Voici ce que notre évêque a dit, Monseigneur Huyg, H-U-Y-G-H-E, qui était alors évêque d'Arras en France. Dans le livre « Des évêques disent la foi de l'Église » en 1978, « Comment pourrait-on s'ouvrir à un Dieu qui n'est pas un père, un Dieu qui n'aime pas, un Moloch qui attend sa ration de sang, de souffrance et de victimes ?» Des évêques catholiques. Dieu veut du sang. Vous voyez, c'est une façon humaine. Ils appliquent à Dieu la notion de justice, la notion de sacrifice. Quand on dit que la passion de notre Seigneur est un sacrifice, c'est pas qu'on offre le sang de notre Seigneur parce que Dieu est assoiffé de son sang, mais eux, c'est comme ça qu'ils comprennent ça de manière univoque. La passion est un sacrifice, c'est un mystère. On utilise le même mot, mais il y a quelque chose de semblable, mais il y a beaucoup de différences. Il y a un mystère surnaturel. Il ne faut pas appliquer ça d'une façon univoque. Un autre exemple, la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. De penser à que notre Seigneur soit présent dans l'Eucharistie d'une manière univoque, alors on s'imagine que notre Seigneur est enfermé, recroquevillé dans l'hostie. Mais non, c'est pas ça, c'est de la folie. Non, c'est un sens analogique. Notre Seigneur est présent, voilà, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Voilà un jugement. Un énoncé, c'est vrai, il y a une présence réelle. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je sais qu'il est là. Le mode de présence, c'est mystérieux, c'est la transsubstantiation. On n'arrive pas à comprendre. Mais on le croit, et on le dit, c'est la foi. Jésus nous l'a, notre Seigneur nous l'a dit. Vous voyez, l'importance de l'analogie, l'importance de savoir faire des distinctions, de savoir avoir des notions claires pour comprendre, pour mieux comprendre notre foi et pour éviter des écueils terribles, des écueils des cardinaux, des évêques sont tombés dedans. Dieu n'est pas un moloch qui attend sa raison de sens, un blasphème, dire des choses pareilles. Alors, dans l'étude du sacrifice de notre Seigneur, dans l'étude du sacrifice de notre Seigneur, rappelons-nous bien que les termes utilisés sont analogiques. D'où nous viennent-ils? D'où nous viennent ces analogies? Plusieurs des termes qu'on utilise sur le bon Dieu nous viennent de la philosophie naturelle. Saint Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 20, « Ces perfections invisibles sont devenues visibles depuis la création du monde, par la connaissance que ses œuvres en donnent, de même sa puissance éternelle, sa divinité. » On arrive à prouver que Dieu existe par la création, que Dieu est intelligent, que Dieu est sage, que Dieu est bon. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à prouver par la philosophie, uniquement en raisonnant, par les choses créées. C'est ce que Saint Paul nous dit. Mais quand on parle de la messe, ici du sacrifice de notre Seigneur, il y a énormément de notions, pratiquement toutes les notions nous sont révélées par Dieu dans la Sainte Écriture. Le bon Dieu lui-même a utilisé ces termes et donc nous a révélé des analogies. Il y a un terme, mais attention, on ne peut pas le comprendre selon le mode humain. Il y a un mode mystérieux, un mode divin. Le sacrifice de notre Seigneur est ceci, le sacrifice de notre Seigneur est cela. On pourra le dire, on peut le dire, il a révélé, c'est révélé. Mais ce que c'est, on ne peut pas pénétrer le mystère. Le mystère est une vérité qu'on ne peut pas entièrement comprendre, et qu'on doit croire parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Il ne s'agit pas de bâtir ici tout un beau système intellectuel, mais plutôt de recevoir la tradition, l'Écriture sainte, les pères de l'Église, c'est ce que la scolastique nous donne, comme on a vu hier, et de l'expliquer. Et en fin du compte, notre foi catholique, toute la théologie, consiste en réalité en une épistémologie, c'est-à-dire une explication des mots, ce que signifie le mot, on explique les mots et les termes reçus. Alors passons de suite au sacrifice, à la notion de sacrifice. C'est ma deuxième partie. On veut parler du sacrifice de la messe, qui est le même que le sacrifice de notre Seigneur. Donc, il faut aller en reculant. Il faut d'abord expliquer la notion de sacrifice. Ensuite, que la passion de notre Seigneur fut un sacrifice. Donc, que le sacrifice de la messe est aussi un sacrifice. D'abord, l'Écriture sainte, je vous donne quelques textes pour montrer que ces notions sont révélées. Un passage dans l'Ancien Testament, Isaïe 53, 4. Vere languores nostros ipse tulit, dolores nostros ipse portavit. Vraiment, il a porté nos langueurs, il a pris sur lui nos douleurs. Dans le Nouveau Testament, on a bien sûr les paroles de la consécration, « Qui promultis et funditur in remissionem peccatorum » Ceci est le calice de mon sang qui sera répandu pour vous, pour beaucoup, en rémission des péchés. Donc c'est le sang répandu pour des péchés. C'est Saint Matthieu 26, 28. On voit les lieux parallèles ici. On passe à Saint Paul. Saint Paul a parlé beaucoup justement de ce mystère de la rédemption, donc de la propitiation, de la satisfaction, la justice divine, que notre Seigneur est immolé, le sang du Christ. Tous ces termes doivent être entendus de façon analogique. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a donné comme propitiatorem, propitiateur ou propitiation, comme victime propitiatoire, par la foi en son sang. Romains 5, 10, Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça s'est révélé. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort. C'est un peu mystérieux. La mort de quelqu'un nous réconcilie. C'est mystérieux, oui. C'est un mystère surnaturel. Ce fameux passage, ensuite, 1 Corinthiens 5, 7, qui est l'Alléluia Pascal. Pascha nostrum immolatus est Christus. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Saint Paul compare notre Seigneur à l'agneau pascal, cet agneau d'un an, immaculé, sans tache, qui a été tué. Il dit, notre Seigneur, c'est ça, notre Pâque, Pascha nostrum. Donc, 1 Corinthiens 15, 3, le Christ est mort pour nos péchés. Oui, ça revient sans cesse sur la plume de Saint Paul. Mais ensuite, vous avez toute l'épître aux Hébreux, qui est vraiment l'épître du sacerdoce de notre Seigneur, l'épître du sang de notre Seigneur. Au chapitre 9e, versets 12 à 14, quand c'est une épître qu'on entend assez souvent, surtout dans, je crois, pour la fête du précieux sang, on l'avait. Il est la comparaison entre les sacrifices de l'Ancien Testament et les sacrifices du Nouveau Testament. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 14, ayant parlé du sang des animaux qui purifiaient les consciences, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Et dernière citation, Hébreux 9, 28. Le Christ s'est offert une fois pour effacer les péchés de beaucoup. Alors sans cesse, il y a cette notion, et on les résume toutes, à la notion de sacrifice. Il y a eu un sacrifice qui a été offert. L'enseignement de la Sainte Écriture est clair. La mort de notre Seigneur sur la croix n'est pas seulement le fruit des circonstances politiques et religieuses de l'époque, les Romains et les Juifs qui ont mis à mort notre Seigneur, ce n'est pas un accident, ça a été voulu. Le Fils de l'homme s'en va comme il a été écrit de lui, nous dit Jésus. On le mettra à mort, il le ressuscitera le troisième jour. Notre Seigneur a annoncé qu'il allait mourir. La mort de notre Seigneur est un événement sacré. Une réalité sacrée qui dépasse le simple phénomène historique. Et pour exprimer ce mystère, on utilise les termes de propitiation, de satisfaction, de conciliation, de réparation. Et vous voyez, toutes ces notions sont tirées de la vie humaine, et on applique ça à notre Seigneur, mais n'oublions pas, il y a un mode divin qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui existe. Le mot, par exemple, satisfaction, ça vient du latin, ça veut dire satisfacere, faire assez, pour que le créancier consente à accorder remise de tout ou une partie de la dette. Monseigneur Huyg, que j'ai cité il y a un instant, qualifie ce terme de horrible. C'est horrible d'utiliser le mot satisfaction par rapport à notre Seigneur. On ne parle même pas de la messe, on parle du Vendredi Saint. Cependant, ce mot a été, on peut dire, canonisé par le Concile de Trente, qui dit que notre Seigneur a satisfait à Dieu le Père pour nous. C'est un dogme de la foi catholique. Notre Seigneur a satisfait. Maintenant, les évêques nous disent, c'est une horreur de dire ça. Voyez encore le cardinal Ratzinger, je cite, « Pour un très grand nombre de chrétiens, et surtout pour ceux qui ne connaissent la foi que d'assez loin, la croix se situerait à l'intérieur d'un mécanisme de droit lésé et rétabli. Ce serait la manière dont la justice de Dieu, infiniment offensée, aurait été à nouveau réconciliée par une satisfaction infinie. Autant cette image est répandue, autant elle est fausse, nous dit le cardinal. Il semble oublier que ce très grand nombre de chrétiens et ceux qui ne connaissent la foi que d'assez loin, ce sont les papes, ce sont les conciles, les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, et ce sont les grands théologiens de l'Église. Ils se sont trompés, ils ont utilisé des notions qui sont erronées, c'est faux. Ça, on est en plein modernisme. Vous voyez comme les papes avaient raison hier de nous dire, attachez-vous à saint Thomas, parce que sinon vous allez perdre la tête. Et vous voyez, c'est là, on touche au cœur de la messe. S'ils arrivent à démontrer que la passion de notre Seigneur n'est pas un sacrifice, la messe est déjà réglée. Il n'y a pas besoin de se battre pour montrer que la messe est un sacrifice. Ça ne l'est pas. Notre Seigneur, mourant sur la croix, c'était même pas un sacrifice. Vous voyez, ils vont vraiment au cœur du mystère de la rédemption. Ils démolissent tout. La tradition attribue unanimement la notion de sacrifice à l'œuvre de notre Seigneur sur la croix. Mais c'est une analogie. Et donc, pour l'expliquer, il faut recourir au sacrifice naturel, au sacrifice même à la religion de l'Ancien Testament, et même aux autres religions non chrétiennes, les religions païennes. On va voir que cette notion de sacrifice, elle est fondamentale à toute religion. Alors, c'est après avoir vu les textes de l'Ancien Testament, on voit la notion de sacrifice elle-même. Bon, je passe pour les textes de l'Ancien Testament, les sacrifices de l'Ancien Testament, il y en a tellement, le sacrifice d'Abel, de Noé, après le déluge, le sacrifice de Melchisédek, du pain et du vin, un sacerdoce qui est différent du sacerdoce lévitique, puisque Melchisédek bénit Abraham. Donc un sacerdoce supérieur à celui de l'Ancien Testament. C'est mystérieux tout ça. Il y a le sacrifice d'Abraham. En réalité, il ne l'a jamais offert, son sacrifice. Dieu demande le sang de son fils. Va sur la montagne que je te montrerai. Et sacrifie ton fils Isaac que tu aimes. Mais Dieu ne l'a pas fait, ne l'a pas laissé faire. Mais dans son cœur, il avait déjà accepté. Et vous voyez, parfois le bon Dieu demande des sacrifices, demande si on est prêt à faire un sacrifice, mais il ne le demande pas toujours. C'est la fameuse histoire du lapin blanc des exercices de Saint-Ignace. Il veut voir si on est prêt à tout donner. Parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'acceptation à la volonté divine. Mais dans l'Ancien Testament, le sacrifice le plus symbolique de notre Seigneur, c'est le sacrifice de l'agneau pascal avec Moïse. Dans le livre du Lévitique, vous avez un exposé très précis dans les 7 premiers chapitres des rites sacrificiels de l'Ancien Testament. Mais je crois que vous en avez un peu de connaissance. Je passe aux autres religions antiques pour vous montrer que les différents caractères du sacrifice que vous connaissez plus ou moins par rapport à notre Seigneur et à la messe se retrouvent déjà dans des religions même païennes. Chez les Romains, il y avait des cultes privés et des cultes publics. Il y avait des religions, le culte familial. Et dans tous les cultes des Romains, on trouve que les sacrifices sont l'acte essentiel du culte. Les sacrifices sont offerts à l'occasion des fêtes religieuses, à l'occasion des guerres, en action de grâce pour les victoires, ou pour demander pardon quand il y a des défaites, lors des calamités, lors des événements politiques. On offre des sacrifices pour différents motifs. Mais aussi dans toutes les parties du monde, on trouve que dans toutes les religions, il y a cette notion de sacrifice, et on trouve les mêmes caractères, que ce soit dans la religion de Mithra, chez les Aztèques ou les animistes d'Afrique. Parfois, ça va même jusqu'au sacrifice humain, mais le fait est incontestable. Il y a ce besoin d'offrir des sacrifices. On trouve 4 motifs principaux dans toutes ces religions pour offrir des sacrifices. C'est pas seulement des motifs chrétiens, nous on les utilise pour la messe, mais on les retrouve ailleurs aussi. D'abord, l'adoration. Le sacrifice est offert en adoration pour exprimer, l'homme exprime sa louange et sa soumission à Dieu. Dieu, cette réalité supérieure, dont, vu sa faiblesse, il attend secours et directive. Le sacrifice, ça, on reconnaît Dieu comme maître et souverain Seigneur de toutes choses. Et comme l'homme est composé de deux réalités, une spirituelle et une corporelle, il est ce mélange d'âme et de corps, ça ne suffit pas d'offrir un culte purement intérieur, il faut un culte extérieur qui exprime les sentiments intérieurs. Et c'est pour ça qu'il y aura l'offrande de choses sensibles pour exprimer envers Dieu un témoignage de soumission et d'honneur. Ensuite, on remercie, on offre des sacrifices pour remercier, pour demander d'autres bienfaits, par exemple, demander la protection des dieux ou recevoir d'autres grâces. Et puisqu'on est coupable, on est pécheur, eh bien, on offre des sacrifices aussi pour expier les fautes commises. On trouve les quatre éléments qu'on appelle traditionnellement l'adoration, l'action de grâce, la demande et la propitiation, la réparation. Dans toutes ces religions, le sacrifice n'est pas accompli par n'importe qui. Il y a un homme qui est consacré pour offrir le sacrifice, un prêtre, qui est consacré normalement pendant un sacrifice. Ça se passe pendant un sacrifice que les nouveaux prêtres sont consacrés. On trouve ça encore aujourd'hui. On est ordonné prêtre pendant la messe. C'est au même instant. Le rituel du sacrifice est très précis. Il y a en gros trois parties. On prépare la victime, parfois pendant des années. On prépare la victime, que ce soit des animaux, que ce soit des choses, du blé, du vin, de l'huile, que ce soit même des personnes. Les Aztèques sacrifiaient par centaines de milliers des jeunes filles, des enfants, des molochs par exemple, etc. Alors on prépare les victimes. Ensuite, il y a l'immolation de la victime et l'offrande de cette immolation, l'offrande, l'oblation d'immolation, pour montrer que le souverain domaine de la divinité sur le monde matériel, puisqu'on renonce à utiliser l'animal, par exemple, si c'est un animal, le meurtre signifie aussi la reddition de la vie à celui qui en est la source. Dieu qui nous a donné la vie, on lui redonne la vie en tuant l'animal. Et enfin, en détruisant une créature, on montre, on exprime la destruction du péché. C'est pour ça, j'ai fait une application à la messe, juste avant la consécration, quand le prêtre met ses mains sur le calice et l'hostie, ou ankijitur, c'est un rite qui remonte à l'Ancien Testament. Quand on apportait une victime au prêtre de l'Ancien Testament, il mettait sur la victime le péché qui venait d'être commis. C'est un homme qui avait commis le péché, mais on allait tuer un animal. Normalement, on aurait dû tuer l'homme, c'est l'homme le coupable, l'animal, il n'a rien fait. Mais on substitue le péché sur l'animal, on transfère le péché sur l'animal, et le prêtre mettait ses mains sur l'animal pour dire, bon, maintenant, c'est lui le coupable, et c'est lui qui sera sacrifié à la place de l'autre. Notre Seigneur, c'est ça. Notre Seigneur a pris sur lui nos péchés. C'est nous qui devrions partir, mais notre Seigneur dit, non, c'est moi, je vais prendre, il a pris sur lui nos iniquités. Alors, vous avez d'abord la préparation, ensuite l'immolation de la victime, et ensuite, il y a la troisième partie, qui est double, il y a l'aspersion du sang de la victime. On asperge, le prêtre asperge et les assistants, et on communie à la victime. Le prêtre donne une partie de la victime à ceux qui viennent de la présenter pour montrer que Dieu est apaisé. Dieu a accepté, a agréé le sacrifice. Alors on a ces quatre notions.
D'abord, il y a les quatre motifs. L'adoration, l'action de grâce, la demande, l'impétration et la propitiation. Les quatre motifs de tous les sacrifices. On a ensuite le prêtre, qui se prend le prêtre pour offrir le sacrifice.
Troisièmement, il y a le rituel, esprit. Ce n'est pas laissé au libre arbitre de chacun. Le prêtre n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il faut avoir la relation en eux pour trouver la créativité. Dans le rite liturgique, ça n'existe pas même dans l'intérieur. C'est un rite très 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 précis. Il y a des sacrifices chez les Romains où il va y avoir un silence absolu pendant qu'on nous donne la victime. Et si quelqu'un même éternuait ou faisait un bruit quelconque, il fallait tout recommencer. Il y a beaucoup de trucs. Alors, rituel. Il se compose en gros trois parties. Vous avez la préparation de la victime. Ensuite, il y a l'immolation. Et ensuite, il y a la communion. La préparation, c'est une offrande, on apporte la victime au prêtre. Alors, j'ai péché, voilà mon sacrifice.
Ça, c'est ce qu'on trouve dans les rites des religions, même païennes. Et bien sûr, c'est familier, c'est des notions communes, parce que on est habitué, nous, à connaître ces notions-là à propos de la messe. Alors, une fois qu'on a vu cette notion de sacrifice sur le plan naturel, rappelons-nous les paroles de notre Seigneur, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que nous dit saint Thomas, nous nous élevons à la connaissance des choses spirituelles par l'analogie. Donc, quand on parle de la messe et du sacrifice de notre Seigneur, on va utiliser les mêmes termes, mais attention, il s'agit d'un mystère surnaturel, donc la réalité existe, mais le mode est complètement différent. Il ne faut pas attribuer ces notions-là selon leur mode humain à Dieu, sinon on dit des horreurs comme les cardinaux et les évêques qu'on vient de mentionner. Alors très rapidement, il me reste à peine quelques minutes, mais vous comprendrez maintenant, une fois qu'on a bien éclairci cette notion de sacrifice, ensuite ça va tout seul, ça va de tout seul, que la passion de notre Seigneur fut un sacrifice. Attribuer à la passion du Christ d'être sacrifice n'est pas le fait d'auteur attardé dans le paganisme, ni de scolastique en mal d'antiquité, c'est un fait constant de toute la tradition chrétienne fondée dans l'Écriture sainte elle-même. Mais, pour affirmer cela, il faut considérer sans cesse le caractère analogique d'une telle affirmation. La passion de notre Seigneur a quelque chose de semblable aux autres sacrifices, mais elle en est infiniment distante. Et c'est analogiquement, c'est-à-dire différemment, mais au sens propre et en toute vérité, que la tradition affirme que la passion, la mort de notre Seigneur est vraiment un sacrifice de louange, d'adoration, d'action de grâce, d'impétration, de demande et de propitiation. Voilà les quatre motifs. Je passe parce que c'est assez clair, je crois, pour vous. Notre Seigneur est lui-même le prêtre. Le prêtre, je vous lis un beau passage ici, quand on va. C'est saint Thomas qui nous explique, dans la somme
Il dit, alors qu'est-ce qui est responsable de la mort de notre Seigneur? C'est Pilate? Les soldats? Caïphe? Nous? Notre Seigneur? C'est qui? Qu'est-ce qui est responsable? Il faut distinguer. Il faut distinguer. Chacun, d'une certaine façon. Hein. Mais, il dit, notre Seigneur, parce que si... parce que c'est ça le mystère chrétien, notre Seigneur, on dit que c'est le plus grand péché, le péché de déicide. Caïphe a commis un péché énorme. Alors comment ce péché abominable peut opérer le salut du monde entier? C'est une contradiction. Alors il faut distinguer, il faut faire la part des choses, voilà. Voilà la précision de saint Thomas. Il dit, voilà, je cite saint Thomas, « Le Christ fut lui-même cause de sa propre passion et de sa mort. Il pouvait en effet empêcher sa passion et sa mort. Il le pouvait tout d'abord en réprimant ses ennemis. Il leur a montré à l'agonie, rappelez-vous, « Qui cherchez-vous? Jésus Nazareth, c'est moi. » Ils sont tous tombés par terre. Donc il aurait pu, d'une pensée, tuer tout le monde. Il l'a pas fait. En faisant en sorte qu'ils ne voulussent ou qu'ils ne puissent le mettre à mort. Ils auraient même pu changer leur cœur. Ils auraient pu faire ça. Ensuite, deuxièmement, du fait que son esprit avait le pouvoir de maintenir la nature de sa chair, au point qu'elle ne subit aucune atteinte des mauvais traitements qui lui étaient interfusés. Vous avez entendu ce matin, Sainte Christine, au martyrologe, qui était torturée d'une façon terrible. Eh bien, le bon Dieu, pendant longtemps, l'a remis de ses blessures. Elle a été fouettée, déchirée, torturée. Ils l'ont jetée à la mer avec une pierre attachée, mais la pierre s'est mise à flotter comme une bouée. Et puis finalement, elle en est sortie. Bon, c'est un miracle. Notre Seigneur aurait pu faire que les blessures qu'il recevait ne lui fassent pas de mal. Il aurait pu. L'âme du Christ avait ce pouvoir sur son corps car elle était conjointe au Verbe dans une unité personnelle. Parce que l'âme du Christ n'a pas repoussé les sévices infligés à son corps, mais qu'il a voulu que sa nature corporelle y succombât, on dit qu'il a déposé son âme, ou encore qu'il est mort volontairement. Voilà, notre Seigneur était vraiment le prêtre de son sacrifice, et il est aussi la victime de son sacrifice. Et ici, c'est différent parce que les autres sacrifices, c'est un sacrifice unique dans l'histoire de la création, parce que la victime est identique au prêtre. Dans tous les sacrifices, de païens ou même de l'Ancien Testament, c'est un prêtre qui immole une victime qui est différente de lui. Mais là, dans ce coup-ci, c'est le prêtre qui s'immole lui-même. Dilex sit me et tradidit sematitium promé. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi, nous dit saint Paul. Le bon pasteur a le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre. Voilà. La victime, alors on passe au rituel. La victime fut préparée dans le sein même de Marie. Saint Paul nous dit quelles sont les premières paroles que Jésus a dites à partir de l'incarnation. Le psaume 39. Le psaume 39 qui nous dit, c'est le prophète David qui disait, près de 1000 ans avant notre Seigneur, tu n'as pas voulu de sacrifice et d'oblation, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, exé, je viens. C'est pourquoi la Sainte Vierge est le premier autel du sacrifice. Ça, c'est Saint Louis-Marie-Guérin de Montfort qui dit ce passage. Jésus s'est offert deux fois en sacrifice au Père vivant, l'un en entrant dans ce monde, l'autre en sortant du monde. L'un lui ouvre, l'autre lui ferme la porte aux misères. Marie sera son premier autel, la croix sera le dernier. S'il vous fait mère de Dieu, c'est parce que vous le faites un fils de chair. S'il verse en votre sein une plénitude de grâce, c'est à cause que vous lui donnez un corps qui sera le principe de cette abondance de douleur, proportionné à l'infinité des joies que son Père lui communique. Vous êtes sa mère, mais vous êtes aussi sa croix, le premier autel. Et donc, comme l'imitation de Jésus-Christ nous dit, Toute la vie du Christ fut une croix et un martyr continuel. C'est vrai. Alors, la préparation, 33 ans de préparation. Saint Pédis, dans son encyclique sur la Sainte Vierge, à Diem Illud, nous dit ici que la Sainte Vierge est un peu comme la bergère qui a préparé l'agneau du sacrifice, qui l'a nourri, qui l'a préparé, qui l'a abreuvé, tout ça, pour préparer la victime. Ensuite, il y a eu l'immolation, bon, c'est la passion, le Vendredi Saint. Et il y a aussi la communion, je vous ai dit, qui était en deux parties, à l'effusion du sang, l'aspersion avec le sang, et la communion. Eh bien, quand notre Seigneur est mort, le soldat lui a ouvert le côté, le sang est sorti pour asperger la terre. Le sang représente la purification du péché. L'eau, principe de vie, représente la régénération, la vie de la grâce. Donc, l'eau et le sang représentent le baptême et la Sainte Eucharistie. Donc, on a la communion. Voilà le appliquer cette notion de sacrifice à notre Seigneur. Et là, je conclue justement en appliquant tout cela au sacrifice de la messe. Sacrifice de la messe qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament par le prophète Malachie. Vous pouvez trouver ce texte dans vos missels. Si vous n'avez pas une Bible, le missel, c'est la messe, la propagation de la foi. Ce texte est cité du prophète Malachie. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand dans les nations, car en tout lieu, on sacrifie et on offre à mon nom une oblation pure, car mon nom est grand parmi les nations. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, il y a un sacrifice qui est offert. Et il y a la parole de notre Seigneur, c'est vraiment la fondation du sacerdoce. Hoc facite in meam commemorationem. Ce que je viens de faire, faites-le. Hoc facite, c'est un ordre. Alors, la différence, vous savez, entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix, c'est que le sacrifice de la croix fut offert selon un mode sanglant, alors que le sacrifice de la messe selon un mode non sanglant. Selon des signes sacramentels. Et donc, on dit que la messe est un sacrifice sacramentel, et non pas un sacrifice réel, sous des apparences réelles, comme immoler un animal, ou même notre Seigneur mourant en croix. Le sacrifice, vous savez, à la messe, s'accomplit par la double consécration. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps » et ensuite « ceci est mon sang », là il y a une séparation mystique, c'est mystérieux, mais il y a une séparation. Comme quand notre Seigneur est mort, quand il a dit « entre vos mains, je remets mon père, je remets mon esprit », eh bien, son sang avait quitté son corps. Et là, son sang avait été séparé, c'est la mort. Alors, c'est dans cette double consécration que constitue le sacrifice de la messe. Donc la messe est appelée soit un sacrifice sacramentel, ou bien non, un sacrement sacrificiel. C'est la même chose qui paraît. Voilà. Alors, je vous recommande très fortement, je demanderai peut-être à M. Lavi Rosco de commander ce livre ici, Le sacrifice, par l'abbé Jean-Marc Rulot, auprès de la Fraternité Saint-Pédis. Beaucoup de ce que je viens de vous dire est tiré de là. Et il continue, il a donné, c'est le fruit de conférences qu'il a données lors d'une session d'études à Flavigny en France, il y a quelques années. Et ensuite il passe à la notion de justice, la notion de satisfaction, tout ça il explique très bien ces notions qui sont importantes pour comprendre la messe. Vous voyez que le cardinal Ratzinger lui-même rejette, et que ses évêques aussi qualifient de horrible. Donc la messe est un sacrifice, mais cette notion est analogique. Alors, J'espère que ça vous aidera un peu à comprendre un peu mieux la messe, à vous y unir davantage et à avoir ce désir de pénétrer autant que possible. Fides querens intellectum, c'est la foi qui cherche toujours à mieux comprendre, à mieux saisir dans la mesure de nos faiblesses ce mystère qui nous est proposé à notre contemplation, à notre adoration.
Le sacrifice de la messe et la continuation du sacrifice du calvaire, donc le sacrifice mystérieux, par un mot mystérieux aussi. Ça va nous dire tout grand prêtre estimé parmi les hommes, de parmi les hommes, à faire l'offrir des dons et des sacrifices pour la rémission des péchés. Donc nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le souverain prêtre, le grand prêtre, mais par la notion d'énergie, chaque prêtre est souverain prêtre. C'est pourquoi on peut appeler un frère-père, par exemple, décrit dans les Écritures Saintes, que vous appelez les personnes pères sur le Père Céleste. Mais c'est parce que le prêtre, de par la notion d'analogie, de par un homme mystérieux, analogique, il est père. Il a cette divinité dans son âme, par l'union avec une autre spécifique de connexion. Je suis l'avis de cette conférence qui touche au cœur de notre sainte vision.
Au Père et au Fils, au Saint-Esprit, gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame des Sept-Douleurs, Saint-Vivis, Saint-Thomas d'Aquin,
le sacrifice de l'être le plus grand.
Pour avoir le livre Le Sacrifice, il faut écrire aux éditions Tradiffusion en Suisse. Le livre s'appelle Le Sacrifice par M. l'abbé Jean-Marc Rulot, professeur à Écône. Résumé des cassettes qui doivent être accessibles aussi au séminaire de Flavigny. Il y a 5 cassettes qui ont été enregistrées lors de la session d'études de 1989, je crois. À Flavigny.